Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
Bianca Lompré.
Mère ordinaire.
Jeudi, Cindy, comment ça va?
Comme ça.
Hey, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mère ordinaire. Là, si vous pouviez voir, ben, je vais le mettre en fait sur les médias sociaux, le kit de Cindy, t'es belle avec une chemise encore du roi un peu.
Oui.
Jaune moutarde. Jaune moutarde, ton biret, ton verre de vin, une vraie de vraie.
Écoute, ça, c'est un béret qu'un ami vigneron m'avait offert. Donc, c'est un vrai béret.
C'est un vrai béret, là.
Un vrai de vrai béret de vigneron.
J'adore ça. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, ma chère?
Écoute, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de Pinot Noir. Mmh. Pinot Noir qui est un cépage que tout le monde, que tout le monde connaît, qui est originaire de la région de Bourgogne en France depuis le 14e siècle. On s'entend que le Pinot Noir, lorsqu'on pense à Pinot Noir, on pense à vin léger, mais on pense à vin complexe aussi. Les plus grands vins de ce monde, lorsqu'on pense à Romanée Conti, sont faits à base de Pinot Noir.
Évidemment, c'est à lui que je pensais. Tout le monde, hein, pensait à lui.
Mais les vins les plus prestigieux au monde sont issus de la Bourgogne. Donc, c'est des vins qui sont à base de Pinot Noir. Donc, on a ça qui vient de la Bourgogne. Par contre, c'est un cépage international qu'on retrouve maintenant partout. Donc, on en a autant dans l'Ancien Monde, donc les pays d'Europe, que dans le Nouveau Monde, donc au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Donc, j'avais envie qu'on parle un peu de ça, puis la différence entre les vins de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde.
Mais là, moi, j'ai juste une question. Est-ce que Pinot Noir, c'est une appellation un peu comme, tu sais, le Chardonnay? À Mané, tu nous disais, tu sais, on ne peut pas dire dans la vie qu'on n'aime pas le Chardonnay. Il y en a tellement de variétés, de sortes différentes. Est-ce que le Pinot Noir, ça ressemble à ça aussi? Y a-t-il différentes sortes où le Pinot Noir, ça se ressemble quand même un peu?
Le Pinot Noir...
C'est clair comme question?
C'est très clair comme question.
OK,
je n'étais
pas certaine. Oui. Excusez-moi, là, t'es pas facile hein, pour dire cette question.
Très clair. Bien, écoute, les Pinot Noirs Ancien Monde, ça se ressemble. Donc, souvent, ça va être des vins assez légers, secs, qui vont être sur des arômes de cerises, qui vont être sur des arômes florales. Et lorsqu'on pense à des Pinot Noirs de la Bourgogne, souvent, on va avoir des arômes un peu de sous-bois. Donc, de champignons, de feuilles mortes, comme quand on se promène dans la forêt.
Moi,
un
ça,
peu.
J'aime ça, là.
Oui, voilà.
J'aime ça.
On aime ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ce type d'arôme-là. Souvent, les gens qui commencent à déguster du vin, c'est pas le type d'arôme qui est facile à aimer, qui est facile à apprivoiser. Donc, souvent, les gens qui vont se mettre à découvrir les Pinot Noirs de la Bourgogne, ça va être des gens que ça fait quand même quelques années qui dégustent du vin. Ils ont le palais qui s'affine et là, on commence à apprécier ce type de vin.
Parce que moi, j'aimais pas ça avant. C'est avec mon chum, ça fait 4 ans. Je te dirais qu'on boit du Pinot Noir. T'sais, quand j'ai commencé à consommer du vin, c'était des gros vins, des gros cabernets sur la vanille. T'sais, maintenant, je bois ça, je suis plus capable du tout. Là. Mais il fallait qu'en bouche, là, ça déchire, là, qu'il y ait du stork à fond. Et là, plus ça va, plus j'aime les vins là, qui, avec une robe là, vraiment quasi transparente. Il faut que ça soit vraiment léger. Mais au début, je goûtais ça puis je trouvais que qui manquait un petit quelque chose.
Il manquait de goût.
Puis finalement, ça m'a vraiment pris du temps. Fait que c'est ça se développe vraiment, ce goût-là.
Ça se développe
quand
vraiment.
Quand on est habitué de boire un gros vin corsé, là, on est ailleurs complètement. Là.
Exactement, on est ailleurs. Et c'est pour ça que les gens qui commencent à déguster du vin, comme tu viens de dire, on va aller, mettons, sur des Shiraz, des gros cabernets, des infandels, des cépages qui sont très aromatiques, très ronds.
Massif, on dirait en bouche. Là,
c'est ça, tu sais, c'est plus facile à comprendre parce que ça goûte beaucoup. Les vins plus en finesse, comme les vins de l'Ancien Monde, les Pinot Noirs, justement, c'est des vins qui sont plus sur la subtilité, donc il faut quand même avoir un palais un peu aiguisé. Par contre, les gens qui veulent découvrir du Pinot Noir, mais qui ne sont pas nécessairement des grands amateurs de vin ou que ça fait pas longtemps qu'ils dégustent, j'ai amené une alternative ici pour découvrir le cépage. Un Pinot Noir de l'Oregon, donc Oregon qui se situe aux États-Unis. Soit il va sur un Pinot Noir, donc Nouveau Monde, que ce soit États-Unis, Nouvelle-Zélande ou même Canada. Ça va donner des vins en général, justement, qui vont être plus aromatiques, plus goûteux, plus facile à comprendre, à boire en jeunesse aussi. Donc, les gens qui veulent découvrir un Pinot Noir aussi à petit prix, parce qu'on s'entend des fois en Bourgogne, ça n'a pas de prix, les bouteilles, ouais, là, ça monte très vite. Exactement. Donc, c'est le Cloud Line qui est fait par la famille Drouin, qui se situe dans la région de l'Oregon, donc pas très loin de Portland, au sud, dans l'appellation Willamette Valley, qui est vraiment l'appellation quand même la plus connue et assez prestigieuse là, en Oregon. Alors, je te laisse déguster.
Moi, je me suis fait dire souvent que les pinots noirs aux États-Unis, c'était vraiment l'Oregon, l'endroit où les pinots noirs sont les meilleurs. Est-ce que c'est vrai? C'est comme un gage un peu. Tu sais, on va à la SAQ puis on se fait dire « Ah, ça, c'est un pinot noir de l'Oregon. » C'est comme un peu un gage de qualité. Santé!
Santé!
Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut se fier à ça?
Oui. Donc, l'Oregon, c'est... on appelle l'Oregon, son deuxième nom, c'est la Bourgogne du Nouveau Monde. Donc, c'est un climat qui ressemble pas mal à la Bourgogne. C'est un climat tempéré, assez humide aussi. Grand écart de température entre le jour et le soir. Donc, très frais la nuit, très chaud le jour. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet aux raisins de mûrir, donc aller chercher beaucoup des arômes fruités, mais de garder la fraîcheur, de garder de l'acidité. Donc, le Pinot Noir, c'est un cépage qui va vraiment être mieux dans des climats frais.
C'est bon à savoir.
Oui, donc les Pinot Noirs en climat super chaud, si on pense à l'Afrique du Sud, tout ça, je ne veux pas dénigrer les produits, mais il n'y a pas d'intérêt. Ça devient lourd, il n'y a pas d'acidité, c'est mou, c'est pas agréable
c'est
à boire.
C'est mou!
Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas...
Il n'y a pas d'intérêt, c'est mou. OK, c'est clair, Cindy.
Exactement. Donc, Willamette Valley, qui est justement, qui a quand même beaucoup de fraîcheur dans ce coin-là, c'est un climat idéal pour le Pinot Noir.
Est-ce que je goûte un peu du poivre ou je suis folle?
T'es pas folle du tout, bravo!
Oh, yeah!
C'est vrai, c'est un peu épicé. Oui. C'est un vin aussi qui a fait un léger élevage en fût, donc on retrouve un peu des notes de cacao. On a vraiment ce côté sur la mûre sauvage, un peu le cassis qui ressort beaucoup. C'est assez rond en bouche, donc c'est pas trop sec non plus. Donc, c'est très facile à boire, autant pour l'apéro, pour accompagner un plateau de charcuterie, des grillades de viande, mais des grillades de poisson aussi, ça pourrait très bien aller. C'est pas un vin rouge qui est trop corsé, donc on pourrait se permettre de mettre ça sur des poissons.
Cloud Line, la bouteille est magnifique aussi.
Oui.
Ce que j'aime des bouteilles comme ça, c'est qu'elles sont faciles à reconnaître. Là, pour vous situer, Cloud, on est dans les nuages, donc c'est vraiment une... on dirait une peinture, un peu d'un nuage. Donc, on peut aussi aller à la SAQ et dire un pinot noir, là, c'est des nuages. Ça aussi, ça peut fonctionner. Donc, ils vont reconnaître la bouteille. Est-ce que c'est en vente partout?
C'est en vente partout en SAQ. En plus, c'est quand même, bon, c'est pas donné, mais c'est quand même abordable. C'est $24.95 disponible en SAQ. Donc, pour un pinot noir qui est très bien, un pinot noir d'entrée de gamme, mais qui est très bien fait, moi, j'invite les gens là, à déguster avec ce produit-là. Là, c'est une belle façon d'apprivoiser un pinot noir Nouveau Monde.
Est-ce que les pinots noirs Nouveau Monde sont moins dispendieux qu'un pinot noir, on appelle ça Ancien Monde?
C'est relatif, ça va dépendre encore là de la région. Si on pense à Pinot Noir Ancien Monde, juste en France, bon, c'est sûr que le berceau, c'est la Bourgogne. Mm-hmm. C'est plus achetable. Il y a énormément de demandes à travers le monde. Donc, c'est sûr que les prix augmentent. Par contre, on peut retrouver du Pinot Noir dans la région de la Loire, en Alsace. Donc, ça va donner des bons Pinot Noirs.
En Alsace? Oh, oui, ça, moi, dans ma tête, on dirait vin d'Alsace. Je pense à un vin blanc. J'aurais pas pensé à du Pinot Noir.
Oui, puis ils font des très bons Pinot Noirs. Puis vu que c'est une région fraîche, on se rappelle que le Pinot Noir aime le climat frais. Exactement. Donc, ça donne des vins, justement, avec une bonne acidité, vraiment sur le côté fruit croquant. Donc, c'est des beaux Pinot Noirs de fraîcheur en Alsace, absolument.
Est-ce qu'on en fait au Québec?
Oui, il y a pas beaucoup de vignerons qui le font.
OK, parce que tu me parles des températures. Je me dis, c'est bien un endroit où il y a beaucoup quand même de fraîcheur. Puis, tu sais, on est loin. Tu sais, le soleil plombe pas ici, comme en Afrique du Sud ou même en Californie. Fait que je me dis doit en avoir au Québec, mais je me souviens pas d'avoir bu un pinot noir québécois.
Oui, il y a le domaine Saint-Jacques, Saint-Jacques-le-Mineur, qui font un pinot noir.
Les parents de Jay Dutemps.
Les parents de Jay Dutemps, on les salue d'ailleurs.
On les salue. J'ai bu cette semaine, soit dit en passant, une bulle du domaine Saint-Jacques.
Oui.
Puis je me souvenais qu'on en avait déjà bu à ton restaurant, parce que toi, justement, chez Victoire, tu as quand même une belle sélection de produits québécois. Puis c'est
absolument
à ton restaurant que je les avais découverts, ces bulles-là. Puis je les ai reconsommées, puis c'est super bon. Alors, merci pour la belle découverte, Cindy.
Avec grand plaisir. Puis le pinot noir, c'est vrai, tu me fais penser aussi. C'est un des cépages qu'on peut faire du vin mousseux avec. C'est un cépage en champagne. Donc, les trois cépages qu'on retrouve beaucoup en champagne, il y a le chardonnay, le pinot meunier, mais le pinot noir aussi.
Le pinot meunier?
Oui, c'est une autre variété de cépage comme le pinot noir. C'est
mais
comme
j'ai
un
jamais
peu
vu ça
cousin
sur une bouteille. Il est écrit pinot meunier?
Bien, c'est écrit sur la contre-étiquette. Mais là, la raison pour laquelle que je mets un petit bémol à ta question, ouais, c'est que en ancien monde, donc en Europe, on n'écrit jamais les cépages sur le devant de la bouteille. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a les systèmes d'appellation qui font là. Ils font du vin depuis des milliers d'années. C'est très traditionnel. Donc, eux, ils vont vraiment mettre le terroir de l'avant. Donc, on va voir la région qui va être indiquée. Exemple, justement, Champagne ou, je sais pas moi, Saumur ou Bourgogne. Donc, c'est la région qui va être de l'avant.
C'est pour ça que tous ces vins-là, souvent, vont être écrits en gros Bourgogne, sans plus.
Exactement.
Ah, mon Dieu, je savais pas ça.
Oui, parce que dans l'Ancien Monde, on met vraiment le terroir de l'avant. Tandis que dans le Nouveau Monde, que ce soit, on pense à États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, c'est vraiment le cépage qui va être de l'avant. Donc, comme exemple, si on regarde la bouteille Cloud Line que j'ai amenée aujourd'hui, mm-hmm, c'est écrit en gros dessus Pinot Noir.
Ben oui.
Donc, les terroirs du Nouveau Monde, c'est vraiment le cépage qu'ils mettent de l'avant avant le terroir, avant l'appellation.
Et puis ça, il y a quand même pas mal d'alcool, le 13,5.
Oui.
Oui, parce que ça a l'air léger. Encore là, je sais que c'est pas du tout la réalité, mais tu sais, quand on consomme encore là un gros cabernet, exemple, mm-hmm, vu que ça goûte, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool. Puis là, moi, j'allais prendre un pinot noir. On dirait que j'ai l'impression, je sais que c'est mental, mais vu que c'est plus doux en bouche, plus léger, qu'il y a moins d'alcool, mais pas du tout. Là, c'est quand même 13,5.
Oui, c'est 13,5, mais qu'est-ce qui va venir équilibrer la sensation d'alcool en bouche? Parce que l'alcool en bouche, c'est de la chaleur. Donc, ça nous donne une impression de chaleur en bouche. L'acidité va venir balancer ça, parce que l'acidité donne une impression de fraîcheur. Donc, un vin qui va être fort en alcool, comme mettons, là, on est à 13,5, mais qui a beaucoup d'acidité, tu ne percevras pas l'alcool.
Parce qu'on ne le perçoit pas en tout, là.
Non, ça, t'as raison, on le déguste, puis on ne sent pas du tout, là, ça ne semble pas du tout alcooleux. Non. Ça, c'est parce qu'il y a une bonne acidité.
Ça, c'est très...
oui! Donc, on peut dire que c'est un vin qui est équilibré, parce que l'acidité vient équilibrer l'alcool.
Le mot du jour, équilibre. Ça, c'est est-ce qu'on le boit un peu frais? Mais comme là, il est... Étouffe-toi pas, c'est une merde!
Pardon! Je me suis étouffée avec ma langue, c'est parfait.
Ça, c'est drôle, hein, dans la vie. Ou c'est étouffée avec sa salive. Tu sais, t'es assis, t'écoutes la télévision, là, puis à mané, t'es étouffée tout seul. Tu fais, mais voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer? On l'a tous déjà vécu, là.
Ouais, ben, c'est ça. Ça vient de m'arriver live, là.
Écoute, personne de parfait. Mais...
Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on
Attends,
disait?
On disait ouais.
Avant de s'étouffer.
Est-ce qu'on le déguste, pas froid, mais frais quand même?
Moi, je dirais, oui, c'est ça, autour de 16 degrés. Puis ça, c'est une autre chose. Les vins qui sont plus alcooleux, si on les sert frais, on va encore là, ça va enlever un peu la perception de l'alcool. Donc, c'est toujours bien, surtout avec l'été qui arrive. Là, moi, je conseille...
Il n'y a rien de pire qu'un vin rouge chaud l'été. Là,
tellement, c'est lourd.
Il y a de quoi
là.
S'étouffer.
Ben oui! Exact. Mais surtout l'été, moi, je conseille aux gens, comme mettons une demi-heure, 45 minutes avant d'ouvrir votre bouteille de rouge, mettez-le au frigo. Une petite demi-heure, là, ça va le rafraîchir de quelques degrés, puis la température va être parfaite pour le service.
C'était bon, ça! Alors, veux-tu nous rappeler le vin, Cindy?
Oui, donc c'est la cuvée Cloud Line, Pinot Noir, qui vient de la région de l'Oregon aux États-Unis, en appellation Willamette Valley, qui est, en fait aussi, une petite anecdote, c'est faite par la famille Drouin. La famille Drouin...
Ça sonne québécois au bout, ça, Drouin. Non, je sais pas, là, il me semble, mais...
Ça sonne québécois,
ça
mais...
Ça sonne très québécois.
C'est français également. Donc, la famille Drouin, c'est une famille qui est très établie en Bourgogne, qui détient beaucoup de parcelles sur des grands crus, des premiers crus. Donc, c'est quand même un nom très fort, très noble en Bourgogne. Et eux, en fait, en 1979, il y a eu une dégustation à l'aveugle à Paris de Pinot Noir et de Chardonnay, Ancien Monde, Nouveau Monde. Et il y a un Pinot Noir de l'Oregon qui est arrivé en deuxième position devant plein de super grosses appellations françaises. Donc, c'est à ce moment-là que la famille Drouin, ils ont fait, OK, il y a vraiment du potentiel là-bas. Donc, ils ont décidé d'acheter des terres et de s'installer en Oregon. Donc, oui, on est sur un vignoble... à Willamette Valley, Cloud Line, mais c'est la famille Drouin, qui est une très grande famille noble française en Bourgogne, que leur réputation n'est plus à faire dans le milieu du vin, qui produisent ce vin-là.
Mais là, tu vois, le Drouin, c'est D-R-O-U-H-I-N. Là, ça, c'est français. Ils mettent un H, là, au Québec, il n'y a pas de H.
Non,
c'est
non, on skip le H au Québec. Pas de H. Trop compliqué.
Ah, c'est moins compliqué. C'est pas moins compliqué, justement, c'est plus simple comme ça. Et là, j'ai une dernière question, Cindy.
Oui.
Les petites descriptions derrière, là. C'est qui a écrit ça?
Imagine-toi donc qu'il y a du monde qui pense à ces textes-là. Non, mais c'est le représentant... ben, j'imagine que c'est soit les vignerons, tout dépendamment de la grosseur du vignoble, ou les représentants marketing. Certains vignobles, ça va être la même contre-étiquette qu'ils mettent sur absolument toutes leurs cuvées.
Sur chacune des... OK.
Puis il y en a d'autres que ça va vraiment être personnalisé, qui va avoir un descriptif du vin. Donc, c'est pas obligatoire, hein. Tu sais, on voit de plus en plus de vins qui ont l'étiquette sur le devant, mais qui n'ont pas de contre-étiquette.
Mais c'est parce que personne les lit aussi, là, en général.
À part toi.
À part moi. Non, mais des fois, par contre, quand j'achète, j'aime ça à l'endo, quand on me dit quelques accords, mes vins. T'sais, au moins, ça me donne une idée, là, quand je suis à la SAQ, puis il n'y a pas de conseiller autour. T'sais, si derrière, on parle juste de poisson, ben, je ne vais pas l'acheter pour me faire un gros steak. T'sais, ça, je trouve ça quand même bien. Ça nous donne quand même des petites idées.
Ben oui, absolument. Absolument.
Hey, merci beaucoup. Donc là, ben, le vin, je rappelle que c'est celui avec plein de nuages.
Les nuages bleus. 24,95.
Et ben, là, on va finir en parlant de chez Victoire. Donc là, cette semaine, nous sommes jeudi. Est-ce que ça fonctionne encore à tous les jours? Il y a comme une thématique, hein, au restaurant, est-ce que c'est
oui,
ça?
Oui, exactement. Mais pour notre 10e anniversaire, en fait, on lance des festivités tout l'été. Donc, du dimanche au mercredi. Pour les amateurs de vin, tous les mercredis soirs, venez me voir chez Victoire. Je mets une section de la carte des vins à 50 % de rabais. Donc, dans le fond, on le vend au prix coste. Fait que c'est vraiment pour nous une façon de fidéliser, de remercier nos clients, puis de permettre aux gens de découvrir, ben, de découvrir des grandes bouteilles que des fois, on n'ose pas s'acheter parce que, bon, tu sais, exemple, la Bourgogne, c'est hors de prix. Mais là, les mercredis soirs, justement, hier, c'était la Bourgogne qui était en spécial à 50 % sur la carte. Oui, madame. Donc, les mercredis soirs, sinon les mardis, c'est le retour des huîtres à 1 $ Et les dimanches soirs, on a toujours notre menu dégustation 4 services à 35 $ au lieu de 49. Donc, tout un aubaine.
Tout un aubaine. Oui, papa! Ça...
Venez me voir chez Victor. Oui, mais... papa!
11h, midi.
Bianca Lompré.
Mère ordinaire.
J'espère toujours que vous allez bien. Je suis maintenant en compagnie de Thomas Levac, qui est humoriste. Et avant d'entrer en onde, Thomas, tu m'as dit que toi, tu aimais les femmes plus vieilles. Donc, ça donne le ton à cette chronique.
Oui!
Parlons d'amour et la différence d'âge dans les couples.
Oui, oui. Généralement, le mythe, ou du moins, ce qui est... socialement accepté, c'est des hommes un peu plus âgés avec des femmes plus jeunes. On dit que c'est tout à fait normal, que c'est une bonne chose, que c'est sain.
Mais moi, c'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus. Moi, dans mon entourage, Jean-Philippe, mon chum, a 4 ans de plus que moi. Je regarde ma mère, son chum est un peu plus vieux. Je regarde ma sœur. En général, dans mon entourage, j'ai souvent un 2, 3, jusqu'à 5 ans, là, je te dirais, de différence d'âge. Et c'est vrai que souvent, l'homme est plus vieux que la femme. Moi, j'ai rarement le contraire.
Moi, j'ai toujours adoré les femmes plus âgées depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 16, 17 ans. J'ai toujours préférer les femmes plus vieilles.
Mais attends, plus vieilles, plus âgées de... Est-ce qu'on parle de 2 ans ou on est dans 10 ans et plus? Là?
Oui, 10 ans et plus. Ma première blonde, si on veut, c'était plus... Moi, j'en niaisais, ben, j'avais 22 ans, mais j'avais pas confiance en moi. C'était une femme de 37 ans.
Quand même?
Une différence de 15 ans.
OK. Comment ta famille a pris ça?
Ma famille prend n'importe quoi. C'est pas... Ce que ma famille pense... Moi, très, très jeune, j'ai réalisé que ma famille, c'était pas important ce qu'ils pensaient.
OK.
Fait que ce que ma famille pense, ça m'a jamais vraiment, vraiment intéressé. Au contraire, si ma famille est d'accord avec mes choix, je change.
Mais voyons donc.
C'est mieux, c'est oui.
Mais t'es en bon terme avec ta famille?
Oui, mais je trouve que je préfère vivre ma vie comme moi je l'entends.
Je comprends.
Et je crois que je suis... j'ai toujours été... je crois que pour forger son identité, il faut aller à l'encontre de sa famille. La pire affaire que tu peux faire, je pense, c'est vivre la vie de ton père ou ta mère.
Oui, absolument, mais aller à l'encontre, tu sais, je ressens ma mère sur certains points, mais je ne vais pas à l'encontre non plus de ma mère.
Ah, moi, volontairement, je vais
volontairement. C'est rare que j'entends ça, je trouve ça particulier. C'est sûr qu'il y a des parents présentement qui se reconnaissent là en disant mon enfant justement veut aller à l'encontre de moi, ne veut pas ressembler à son père, ne veut pas ressembler à sa mère. Moi, j'avais pas l'intention de ressembler à ma mère. Il m'arrive des fois, depuis que je suis mère surtout, de faire oh mon Dieu, je suis comme ma mère, mais tu sais, je veux pas aller à l'encontre de ma mère. Je sais pas. C'est particulier.
Oui, j'ai toujours.
Mais j'aime ça.
J'ai toujours pensé que c'est parce que tu veux vivre une vie différente. Tu veux pas juste être le clone de tes parents. C'est la pire... À mes yeux, c'est que tu ne vis pas. Tu fais juste vivre la vie d'un autre.
Je comprends.
Je peux comprendre. Je pense que c'est mon truc pour la crise de quarantaine. C'est le truc. Si tu vis ta propre existence dès un jeune âge, t'as pas à 40 ans à te faire une boucle d'oreille, à t'acheter une décapotable puis à coucher avec du monde à 21 ans.
Moi, tu vois, ça, je pense plus que la crise de la quarantaine va venir justement si t'as toujours été très rangé.
T'sais, sans ressembler, là, je pense pas que les parents ont tant quelque chose là-dedans à avoir, ont pas nécessairement rapport. J'ai plus l'impression vraiment, tu sais, que si t'es rangé, exemple, quand j'ai rencontré mon chum, avant moi, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres femmes, tu sais. Mm-hmm. J'en parlais avec ma mère, je disais, moi, j'aime mieux ça, j'aime mieux un homme qui a vécu, qui a eu ses histoires de cul, comme on peut dire en bon québécois, qui a Amen. Tout fait ça. Et par la suite, là, il est prêt à se caser. Tu sais, moi, les gens autour de moi que j'ai vus qui ont eu ces crises-là de 40 ou 50 ans, souvent, et là, je veux pas faire sourcier personne, mais tu sais, ce sont des couples qui se sont... Non, mais tu sais, se sont rencontrés très, très jeunes, qui sont ensemble, qui ont pas nécessairement trippé dans la vingtaine, qui ont pas fait les conneries classiques qu'on fait à 20 ou 30 ans. Et là, à 40 ans, souvent, on se réveille, puis, hey, j'ai une vie à vivre. Moi, tu vois, je pense pas que les parents ont tant quelque chose à avoir là-dedans.
Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais le plus génial avec ce type de personnalité-là qui font en 40 ans, let's go, j'y vais, c'est qu'ils sont pas capables de réaliser ce qu'ils veulent faire. Ils disent, moi, là, m'a couché avec des jeunes filles. Ils sont incapables de séduire, ils sont mal à l'aise avec les femmes, ils sont mal à l'aise avec les jeunes femmes, et c'est les gens les plus loufoques à mes yeux. Les gens qui...
L'appel.
Oui, ils ont l'appel.
Du sexe.
L'appel du sexe. Ils sont incapables de connecter avec personne parce qu'ils n'ont jamais séduit.
En même temps, il faut respecter. Tu sais, ça se peut très bien que tu te rends compte à 40 ans que ça fait 10 ans que tu n'aimes plus ton conjoint. Que là,
ou que
tu es
gay.
Le temps. Et ou que tu es gay aussi.
Quand j'étais adolescent, j'ai une amie que ses deux parents, en même temps, auraient dit qu'ils étaient gays chacun.
Hey, hein, ça, c'est spécial quand même.
Puis, ce qui était super parce que ça faisait un super couple.
Ben absolument.
Parce que personne n'était frustré. Hey, moi, je suis gay, t'es de lesbienne, let's go. Ça fait des super parents, ils s'entendaient bien. Ils ont pas vécu, ils ont eu un divorce, mais le plus joli
le plus,
des divorces.
Ben oui, absolument.
Et aucune, tu peux pas être jaloux d'une personne qui n'aime pas.
Eux, ils ont sans doute fait une fête lors de leur divorce, parce que ça, c'est une des nouvelles tendances également. Tu sais, souvent, on se marie à une célébration. Et maintenant, on célèbre également notre divorce. Un gros party, là, c'est de plus en plus tendance.
Tu t'es déjà allé à un party comme ça?
Non.
Ah, moi, s'il vous plaît...
Invitez-nous.
Invitez-nous, ça a l'air génial. C'est beaucoup plus fun qu'un mariage, non?
Non, ben je sais pas, moi j'aime vraiment les mariages.
Qu'est-ce que t'aimes des mariages?
Tout, de A à Z. De A à Z. J'aime ça, là. Écoute, à chaque année, on a un mariage. Là, j'ai eu l'invitation pour cet été parce qu'un été sans mariage, il me manque quelque chose. J'aime ça avec mon chum, on se met beau. Là, évidemment, pour faire garder Albert, là. Tu sais, les petites bulles, le souper, tout le monde est souriant. C'est toujours, je trouve, une belle soirée. On danse, on se couche tard. Je sais pas, j'aime l'amour qu'il y a un mariage. J'adore ça. Gars, je t'en parle, je vais sur le top.
C'est vrai, je te vois, puis tu
j'adore t'intimes. Aller dans un mariage.
C'est drôle parce que moi, longtemps, j'ai critiqué les mariages parce que je suis très, très, très... J'aime ça être punk, puis la société, ça marche pas, puis tout. Je suis un peu ridicule à ce niveau-là.
Ah, pour vrai. Est-ce que tu portes un chandail, la conformité et la mort de l'âme?
Non, parce qu'il y a juste des gens conformes qui portent
exactement,
ça.
Exactement. C'est chez Cruella qui vendait ça. Je l'ai porté, ce chandail-là. Il y a toujours à m'amener de. Voyons, tu portes ça, mais ça a été fait en manufacture. Bref. OK, toi, t'es comme ça. OK. Bon, ça... non, mais c'est correct qu'on apprend à se découvrir. Donc, toi, t'es contre le mariage. Ben, je suis
0-0-0 contre le mariage.
Pas les mariages.
J'aime chialer contre le mariage parce que je suis d'avis que quand une relation. C'est jamais arrivé que quelque chose aille bien et que l'Église catholique s'en mêle et que ça aille mieux. Généralement, dès que l'Église catholique se mêle de quelque chose, les choses empirent. Alors, j'ai toujours détesté ça, mais il y a un ami qui m'a fait réaliser.
Mais on se marie maintenant, on a le célébrant, on est plus. Moi, si je me marie, je suis pas pratiquante, là, tu comprends? Je crois qu'il y a une force, là, mm-hmm. mais il n'y a pas chez moi de. On n'est pas Jésus, Marie, Joseph. Je ne vais pas me marier à l'Église, il va y avoir un célébrant. C'est mon meilleur ami qui va nous marier, tu sais. L'Église est très loin, là.
Elle est très loin.
C'est
un pastiche
oui,
de l'Église.
Oui, tu as tout à fait raison, mais je veux dire, moi, je trouve quand même qu'on est loin de l'Église.
Ce qu'un ami m'a exprimé, c'est mais le mariage, c'est pas. Le mariage, c'est une fête. C'est pas une fête de la religion, c'est une fête vraiment de l'amour au sens large. Puis quand il a dit ça, il m'a convaincu. Pas que je vais me marier. Si ma blonde écoute, attends-toi pas qu'avoir une bague ce soir. Mais j'avais jamais fait ça comme ça. Que le mariage, c'est une fête de l'amour, l'amitié, la famille.
Qu'est-ce que je viens de te dire que j'aime être dans les mariages? Parce que c'est l'amour, tout simplement. Et là, on revient à ton sujet. Là, on a vraiment divagué. Toi, justement, tu me dis les femmes plus âgées dans tes amis, comment les gens s'y prenaient ça? Parce que tu étais quand même plus jeune de dire que tu es avec une femme qui a 37 ans quand même. Est-ce que c'est mal perçu? Est-ce que tes amis de gars disaient comme « Oh yeah, man, t'es hot,
Thomas? » Comment
ça a été reçu?
Je suis dans le milieu des arts depuis l'âge de 20 ans. Mm-hmm. Fait que tout ce qui est sexuel, les relations tout ce qui est sexuel, les amoureux,
tu t'en vas avec ça. Les gens feront l'amour également s'ils ne sont pas dans le domaine des
ils sont, beaucoup plus ouverts. Plus t'as dans le milieu des arts, il n'y a rien qui impressionne rien.
Ah non, ça, c'est ça. On en a vu des vertes et des pommes.
Voilà. Là. Alors, si tu dis, moi, j'aime vraiment les femmes âgées, ils font, ah bon, c'est ce que t'aimes. Moi, absolument. En passant, je suis polyamoureux. Puis, un de mes chums, Yvan Talley, puis je l'ai rencontré. Tu fais, ah, OK.
Ouais, je comprends.
Alors, ça c'est toujours très, très, très bien déroulé. J'ai jamais été jugé.
Là, quel âge a ta copine?
Là, maintenant, on a le même âge. Un an de différence. Ben, un an plus vieille que moi.
OK. Ouais. Si tu m'avais dit un an plus jeune, j'étais comme là, ça marche pas du tout.
Ce qui est ironique, c'est que j'ai toujours aimé les femmes dans la trentaine et je l'ai rencontrée dans la trentaine.
Qu'est-ce que t'aimes d'être une femme plus âgée?
Premièrement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'elle a. J'aime beaucoup que les femmes de 30 ans, généralement, se sont accomplies. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont moins besoin d'un homme pour les faire sentir bien. Ce que je sens dans le début de la vingtaine, et c'est pas c'est pas tout le monde, mais c'est moi.
Ta perception, je comprends.
Ma perception, et du moins, c'est ça sur quoi j'étais attiré. C'est que j'ai l'impression que dans le début de la vingtaine, certaines femmes, pas la majorité, ont besoin de beaucoup, beaucoup s'accomplir à plein de niveaux. Il y a beaucoup de nervosité. Et je pense, pas juste les femmes, les hommes aussi. Je pense que dans le début de la vingtaine, on veut vraiment, vraiment, vraiment s'accomplir.
Mais tout le monde est pas mal en quête d'identité. Là.
Exactement.
Tu sors de l'adolescence. Hey, 20 ans, là, t'es encore une jeune femme. Là. Moi, 20 ans, je m'auto-proclamais pas femme. Là. J'étais très Britney Spears. Là. I'm not a girl, not yet a woman. Là. J'étais comme entre les deux. Là.
Puis je trouve ça extrêmement difficile. Et aussi, j'étais dans la même quête. Fait que c'était très, très, très... C'est pour ça que... En début vingtaine, j'étais extrêmement jaloux parce que l'autre personne, c'était tout pour moi. Plaire à cette personne-là, c'était mon existence au complet.
Tourner autour de cette personne.
Qu'est-ce qu'une femme de 30 ans? Elle a déjà une carrière, elle a déjà un compte en banque, elle a déjà d'autres amis, elle a eu des amants, elle a tout fait, sexuellement, elle a pas mal fait le tour. Puis ça, je trouve ça vraiment, 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 ça me relaxe.
Et faire l'amour avec une femme quand même plus âgée.
C'est extraordinaire.
De 10, 15, je sais pas, j'ai jamais couché avec quelqu'un de vraiment plus vieux que moi, de 10, 15 ans, mettons. Ça m'est jamais arrivé. Mm-hmm. Je l'ai pas vécu. Comment ça se passe?
C'est extraordinaire parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, puis elle sait comment non seulement te le communiquer, elle peut te le communiquer sans parler. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette être avec quelqu'un qui sait exactement comment jouir. Et aussi, ce qui est... Moi, une pression que je vivais, c'est encore des perceptions, c'est pas des...
Oui, mais on parle de toi, c'est pour ça qu'on t'a invité. Fait que
ce qui était difficile, c'est ça, le but, hein? De coucher avec des femmes de 20 ans, c'est que souvent, elles ne savent pas qu'est-ce qui les font jouir. Mm-hmm. Fait que tu dois le découvrir avec elles, et elles espèrent que tu vas les faire
monter au septième.
Voilà, ouais. Une femme de 32 ans, dit « Mets ta main là, dis-moi ça, mets ta bouche ici, puis voilà. » Ce qu'une femme de 20 ans ne sait pas, parce qu'elle se connaît pas.
C'est sûr. Je t'écoute parce que je pense en même temps à ma sexualité. Mais c'est sûr qu'il y a une très grosse différence entre 20, 30 et j'ai hâte d'avoir à 40 ans. Je ne suis pas encore rendu là. Quel âge as-tu, toi?
J'ai 30 ans.
Là, tu as 30. Pile?
Pile.
Pile, pouf, pile. 30 ans.
Et aussi, physiquement, j'adore les femmes de 30 ans. Ça m'a toujours, toujours fait capoter. J'ai toujours aimé une femme, c'est ça que j'aime.
Oui, mais là, tu me dis que tu aimes les femmes plus âgées, mais tu as 30 ans et tu aimes les femmes de 30 ans. Mais là, est-ce que tu es attiré également encore par les femmes de 40, 45, 50 ans? Est-ce que c'est quelque
pas
chose?
Autant. Non. Pas autant. Aussi, notre affaire, disons-le, moi, je suis la. Tu sais, le syndrome d'Oedipe.
Oui.
Moi, je suis la mascotte du syndrome d'Oedipe. Je suis vraiment la caricature du syndrome d'Oedipe. Vouloir tuer son père et vouloir marier sa mère, coucher avec sa mère, c'est moi
c'est bizarre,
à 100%.
C'est bizarre.
C'est bizarre, je t'entends, mais c'est ça quand même. Alors, moi, j'ai toujours, 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 toujours voulu aller chercher de la sécurité et de l'affection d'une femme plus âgée, de l'âge de ma mère. Quand j'étais jeune.
Et est-ce que les femmes que tu as côtoyées ressemblent beaucoup? Tu sais, moi, je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est un lien, mon père est décédé quand j'avais 9 ans, puis j'étais beaucoup attirée. C'est comme il y avait les cheveux longs. Un gars qui a les cheveux longs, ça m'attirait. Il jouait de la musique, de la guitare. Un gars, puis longtemps, je cherchais vraiment mon père. Et là, présentement, Jean-Philippe, il a les cheveux longs, mais tu sais, sinon, il est tout le contraire de ce que j'ai toujours cherché. T'sais, j'ai été longtemps à chercher mon père. Toi, est-ce que tu cherchais avec les femmes que tu as
côtoyées? C'est pas mal le même pattern que toi. Premièrement, moi, ma mère est décédée quand j'ai l'âge de 4 ans.
OK, mon Dieu,
on connecte là-dessus. Et moi, ce que j'ai cherché, vu qu'elle est morte du cancer et que j'ai vu ce qu'on m'a exprimé, c'est l'hypothèse que j'ai eue en psychothérapie, c'est que vu que ma mère est décédée à l'âge de 4 ans, que tout ce que mes seuls souvenirs, c'est une femme malade. Elle avait le cancer des os, qui est un cancer particulièrement, entre guillemets, visuel.
Elle
tombait par terre, elle criait, elle était en souffrance. J'ai toujours été attiré toute ma vie par des femmes en souffrance que je sauvais, que je voulais sauver. J'avais le syndrome du sauveur. Je voulais une femme qui était malade, pas juste malade physiquement, mais qui avait certains troubles, et je voulais la sauver. Fait que j'étais toujours dans des relations avec des femmes que je considérais brisées. Ce que changeait avec ma blonde en ce moment, ce que j'ai réalisé en psychothérapie, c'est que c'est pas moi qui étais le responsable de la mort de ma mère, et que je méritais d'avoir quelqu'un qui était détendu et qui était, ironiquement, comme ma mère avant la maladie. J'ai toujours cherché des femmes qui étaient comme ma mère malade, mais maintenant, je suis avec une femme qui était comme ma mère avant sa maladie.
Et ça, c'est la psychothérapie qui t'a aidé à comprendre ça. Combien de temps t'es en psychothérapie?
Je suis encore en psychothérapie, ça fait environ 2 ans et demi.
OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller consulter?
Je croyais à tort que j'étais alcoolique.
Hein?
Ouais,
je croyais à tort?
Oui, je suis rentré dans son cabinet. J'ai dit, ouais, je viens ici pour mon problème d'alcool. Elle m'a dit, d'accord. C'est quoi ta consommation d'alcool par semaine? Puis je dis, je m'en souviens pas. Elle dit, t'en souviens pas. Ah, mais ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire.
Mais OK,
c'était difficile. Non, vraiment facile. Elle m'a dit, généralement, les alcooliques peuvent pas arrêter de boire en claquant des doigts.
Mais attends, tu es allé consulter quand ça faisait 3 ans que tu avais arrêté?
3 mois.
3 mois?
3 mois. Okay. Et là, on a fouillé un peu. Puis on a réalisé que j'étais malheureux dans ma relation amoureuse et j'avais des problèmes d'abandon.
Eh bien. Mais tu vois, justement, ma mère me disait quand j'étais jeune, puis surtout à l'adolescence et tout ça, quand j'ai rencontré quelqu'un, je commençais à rencontrer des garçons et tout, tu sais. Puis elle me dit, Anaïs, tu vas voir, entre ce qui est bon pour nous et ce qu'on croit qui est bon pour nous, il y a une immense différence. Et moi, longtemps, je croyais que X type de garçon était bon pour moi. Donc, j'allais vers eux et finalement, c'était nocif parce que comme toi, un peu, je voulais les sauver. Et finalement, tu sais, j'ai un chum qui est beaucoup plus relax. Moi, avant, j'avais besoin de quelqu'un de très hyper, tu sais. Donc, vraiment, ce que je pensais qui était bon pour moi versus ce qui est réellement bon pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et j'ai décidé à Mané, justement, aussi d'arrêter de chercher ce que je voulais vraiment. Tu sais, souvent, là, on est sur une feuille. Ah non, moi, je veux un gars qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Ah, j'aime, faut qu'il soit souriant, faut qu'il fasse la cuisine. On a tellement une liste et finalement, on passe à côté de l'essentiel. Donc, j'ai aussi décidé à Mané de déchirer vraiment cette liste-là. Et il y a un Jean-Philippe qui est très, très, très différent, l'antipode de tous ceux que j'ai fréquentés dans ma vie. Et il est exactement ce que j'avais besoin, mais je ne savais pas, tu sais, que j'avais besoin de quelqu'un comme ça.
Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça me rejoint complètement.
Mais là, je voulais que tu sois en désaccord et qu'on puisse avoir
complètement
qu'on s'ostine là-dessus, calibre.
Je suis complètement d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'ai vécu. J'avais un modèle dans ma tête qui était complètement fou.
Mais c'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Il y a plein de monde qui écoute, là, tant hommes que femmes.
Ah, il y a des relations amoureuses maintenant qui ont ça.
Ben, j'espère, mais pas j'espère, mais oui, t'as tout à fait raison.
Moi, je sais pas si t'es comme moi, peut-être pas, parce que je suis plus lourd que toi, puis j'adore dire aux autres quoi faire. Moi, depuis que je suis dans une relation amoureuse qui fonctionne, je donne des leçons à tout le monde.
Ah,
et
ça, c'est insupportable.
Et je dis à tout le monde de laisser leur chum ou leur blonde parce que c'est pas ça. C'est juste
OK, parce que toi, tu sais.
Ah, moi, je le sais. Moi, j'ai touché le nirvana et je suis le maître de secte de relation amoureuse. Okay. Je suis lourd, ça n'a aucun sens.
Ben, tu peux-tu me dire ce que c'est à tes yeux? Là, tu me dis, je l'ai trouvé, c'est quoi ta relation? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si parfaite?
Moi, je crois que toute relation amoureuse vient de la détente. Il faut que tu sois détendu. Généralement, je crois pas qu'une relation amoureuse, ça vient avec de l'adrénaline, ça vient avec de la détente. Et c'est quelqu'un, bizarrement, avec qui t'es bien quand elle n'est pas là. Et t'es bien quand... Moi, à mon avis, un signe d'une relation toxique, c'est « Elle est pas là depuis 3 jours, puis j'ai tellement besoin d'elle. » Si t'as besoin de quelqu'un, c'est pas une relation amoureuse, ça, c'est la même relation que t'as avec Delia. C'est pas normal que t'as la même relation avec quelqu'un qu'avec l'héroïne.
Non, effectivement. Mais j'aime ce que tu viens de dire, que t'es bien lorsque la personne est là et lorsque la personne n'est pas là.
Oui.
C'est vrai. Parce que, tu sais, ça nous est tous arrivé là, d'aller prendre une bière entre amis, exemple, puis t'es avec une de tes amies, un de tes amis, son chum n'est pas là, puis, tu sais, le stress de « Oh mon Dieu, là, ben, je sais pas, mon chum, il fait quoi, il est avec des filles », tu sais, puis la personne passe finalement sa soirée sur le téléphone. Mais voyons donc, on est supposé de passer un bon moment et toi, ta tête est complètement ailleurs. Puis c'est vrai que tu me dis la détente, mais moi, j'étais dans des relations aussi avant où est-ce que, à la limite, je me rendais compte que je cherchais le trouble. T'sais, j'avais besoin toujours la chicane qu'on se tirait. Là, je me sentais vivante quand c'était vraiment intense. Et encore là, avec Jean-Philippe, c'est la détente aussi que j'ai découvert de « Hey, c'est pas un long fleuve tranquille parce qu'on chicane pas constamment. » C'est juste que ça fait du bien d'être relax et un couple ne devrait pas nécessairement se chicaner tous les jours. Et c'est ça aussi qui prouve qu'un couple est en bonne santé. Puis j'ai découvert, comme toi, il y a peut-être 4 ans avec mon chum, parce qu'avant ça, je pensais encore là, tout le contraire, que je devais me sentir vivre, tu comprends, quand j'étais en couple.
Et aussi, ce qui est agréable dans ces relations toxiques-là, c'est le sexe. Parce que ce qui est le fun de chicaner, c'est qu'il n'y a rien de mieux que baiser quelqu'un mais qui on vient de chicaner. Parce que tu as l'impression... Ce qui est cool de
plusieurs films exploitent justement cette scène-là. Ouais.
En plus, parce que ce qui est le fun dans ce rapport sexuel-là, c'est que tu te fais dire « Ah, je suis correct ». C'est pas juste physique, c'est une question de « Ah, je croyais qu'il y avait... J'étais dans un précipice, mais là, quelqu'un me rattrape ».
Donc, la morale de cette conversation-là, je pense, c'est vraiment de dire que la zénitude... fait du bien dans un couple et c'est signe qu'un couple est en santé.
Et je crois aussi que dans certains cas, pas tous les cas, mais qu'une bonne dose de relation toxique, ça te permet d'avoir une bonne relation amoureuse parce que tu sais qu'est-ce que tu ne veux plus vivre.
Et Crémine, je t'en pose un papier. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Levac, site internet, Instagram, Facebook.
Je vais avoir un podcast bientôt.
Où es-tu, là, mon Thomas?
sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Suivez-moi, Thomas Levac, et bientôt, j'ai un podcast qui sort qui va s'appeler le podcast de Thomas Levac.
Des spectacles à venir sous peu?
Là, en ce moment, je fais...
Fais-nous un spectacle, là. Hein?
Cool, bientôt. Cool.
Travaille là-dessus, mon boys.
Ça marche!
Merci beaucoup. Restez là, on revient dans quelques instants. Là, on va jaser de BDSM.
Bianca Lompré. Bianca Lompré. La voix des maires du Québec.
Cube Radio.
On change maintenant de registre complètement. Donc, on a jasé un peu, oui, des couples avant. Donc, finalement, on change pas tant de registre que ça. Là, on jase de couple, mais de couple ouvert. Donc, je suis toujours en compagnie de Thomas Levac, humoriste. Et là, Thomas, on dit bonjour.
Je suis là.
Charlie Boudreau.
Bourdeau,
excuse-moi. Okay. Bon, Charlie Bourdeau, le R est pas à la même place. Tu as 24 ans, oui. Ma chère. Tu es en couple ouvert. À quel moment c'est rentré dans ta vie, ça?
Ça fait à peu près 3 ans que je pratique le couple ouvert, en fait. Puis j'ai rencontré une première personne sur Tinder, comme ça, par hasard. Puis on a eu, ça a vraiment été un déclic instantané. Puis on a décidé ensemble d'ouvrir notre couple. Hein. Puis ça a été une découverte merveilleuse pour moi. Pour vrai, j'ai juste envie de continuer. J'ai envie de continuer après ça.
Mais avant le chum que tu as présentement, oui. J'imagine que tu avais eu une autre relation, c'était oui. fermé. Est-ce oui. que c'est quelque chose qui t'avait déjà traversé l'esprit d'être dans un couple ouvert ou ça s'est comme. C'est arrivé puis tu t'es découverte toi-même?
Oui, bien, pour faire l'histoire un petit peu longue et courte, j'étais en couple pendant 6 ans, de comme 15 à 21 ans à peu près, avec mon premier amour que je salue. Puis, on dirait son nom. Après ça, j'ai commencé vraiment à me découvrir. Tu sais, j'arrive à Montréal, je suis étudiante à l'UQAM. Tu
viens d'où, toi?
Saint-Jérôme.
OK.
Oui. Montréal, c'est un petit peu... ça a explosé pour moi. Là.
La grande ville.
Oh, hein, ouais, il s'en passe
des choses dans la grande ville.
Oui. Puis, c'est ça. Fait que j'ai comme... Pardon, je me suis inscrite à Tinder, puis j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des découvertes incroyables, puis c'est là que j'ai rencontré...
C'est rare, parce que la part des gens sur Tinder ne font pas des découvertes agréables.
Vraiment.
Ben, moi, tu vois, j'ai quand même 2-3 amis qui se sont rencontrés, soit sur Tinder ou réseau contact.
Ouais, puis il y a des millions de gens là-dessus.
Il y a des millions.
2-3 sur des millions.
Mais oui, mais je veux dire, dans mon entourage, j'ai pas des millions d'amis. En tout cas, pour ma part, moi, ça a quand même fonctionné. T'es pas la première que je rencontre qui me dit, je suis allée sur Tinder, puis je m'attendais à rien, puis finalement, tu sais, ça a marché, là, puis ça fait combien? 4 ans que tu es en couple avec cette personne-là?
Non, en fait, c'est ça. J'ai été comme dans mes expériences personnelles. Okay. Après ça, j'ai rencontré la personne qui m'initiait au couple ouvert et au BDSM en même temps. BDSM que je pourrais expliquer après. Mm-hmm. Puis la relation s'est terminée comme après 2 mois. Là, ça se passe spontané. Okay. Mais comme ça a tout changé ma vie. J'étais seule après ça à continuer à avoir ce mode de vie-là, mais avec d'autres personnes en tant qu'on appelle ça unicorn. Donc, c'est la personne qui va être seule. Et qui va être introduite à l'intimité de d'autres couples, par exemple.
On appelle ça unicorn?
Oui, une unicorn, parce que c'est des personnes rares et magiques.
Savais-tu ça, Thomas, toi, unicorn?
Bien sûr, les licornes, bien sûr.
Ah, ben, excusez-moi. C'est ça, je suis pas la seule qui savait pas ce que c'était.
C'est très niché comme jargon. Mais voilà, puis après, j'ai rencontré mon deuxième amoureux, ma deuxième relation qui a commencé là. Et là, ça a été très fermé pendant 1 an. J'ai tout coupé les ponts avec mes envies, qu'est-ce que je vivais avant. J'ai effacé mes réseaux de contact, donc Tinder, et une autre application qui s'appelle Field.
C'est quoi ça,
Field? C'est une application qu'avant, c'était Tinder. Puis, pour les threesome, en fait. Puis, Tinder n'était pas content, ça ressemblait trop à Tinder. Fait qu'ils ont dit, changez votre nom. Fait que là, ça s'appelle Field maintenant, F-E-E-L-D. En vrai, je fais la promotion. Là, mais
si vous voulez, on a fait 3 Field, gang.
Ouais,
allez dans l'App Store.
L'application sur le cellulaire de votre chum ou de votre blonde Field.
Ouais, exact.
Peut-être matière à jaser un petit peu.
Oui, mais ouvrez les discussions aussi. Oui,
attends, là. Non, c'est juste que là, j'ai 10 millions de questions. Ça, je t'explique au bout, là, j'ai plein de questions. Là, juste savoir, tu étais en couple pendant 2 mois. Lorsque vous vous êtes séparés, tu connaissais pas tant ça encore, ce milieu-là. Ça fait 2 mois. C'est quoi? Tu vas dans un bar d'échangistes? Tu es sur Facebook, il y a une page où tu rentres. Tu sais, comment tu rencontres? Mettons, là, moi, demain, là, si je voulais rencontrer un couple pour avoir une vie sexuelle, je ne saurais pas en tout où commencer.
T'sais? L'application que je viens de parler, c'est ça vraiment serait vraiment mon conseil à donner, parce que c'est super ouvert. Tu peux dire c'est quoi tes désirs, tes envies, puis c'est clair qu'on va là pour les raisons sexuelles et ou rencontrer des gens open. Tu sais, moi, je vais pas me promener sur le bord de la rue puis serrer la main des gens, allô, je suis Charlie, puis je suis en couple ouvert. Non. Mais dans cette application-là, non, mais c'est vrai. Mais dans cette
il y a des gens qui le font, ça. Il y a des gens que c'est la première information qu'ils ont. Ils disent, je suis en couple ouvert, en passant, je m'appelle Frédéric, puis tu fais, ben, je suis ta serveuse, je sais pas si tu dis ça.
Je vais pas te taper.
Je vais te la table d'eau, je sais pas.
Exact. Non, mais moi,
est-ce
je fais
que
tu es
allée dans des bars d'échangistes?
Non, j'ai jamais fait vraiment d'expérience sociale à l'extérieur. Ça me fait un peu peur parce que, je sais pas, rencontrer une nouvelle personne et tout ça. Ça, j'aime mieux le concept d'une application parce qu'on peut discuter. Mm-hmm. Écrire, après ça, voir si ça clique un peu. Par ça, on va prendre des verres, puis, on a des dates ensemble.
Puis fouiller le Facebook de l'autre.
Ouais, tu peux stalker.
Ce qui est très, très, très ouais. sain.
C'est la
avant
base,
d'aller prendre un verre à quelqu'un, va fouiller son Facebook.
Ben oui.
Moi, tu vois, avec mon chum, là, je ne suis pas allée voir aucune de ses photos. Je ne voulais pas.
Ça a marché.
Ça a fonctionné. Yes. J'ai fait là pour une des premières fois, là, je ne vais pas commencer à regarder toutes les photos. Puis là, s'il faut qu'il soit avec une fille, là, me poser c'est qui cette fille-là. Puis il
devenait. Tu files.
Les ex ressemblent. Non, mais tu sais, j'étais là, fuck off, excusez-moi, je ne veux rien regarder comme ça, je pars. Tu sais, c'est vierge, là, j'ai absolument rien. Donc, c'est ça, tranche de vie, j'avais besoin d'en parler.
Non, c'est parfait.
OK, donc là, tu as rencontré ton chum, l'homme avec qui tu as été un an en relation de couple.
On va dire fermé, là. Monogame, là, on va se le dire. Moi, c'était pas fait pour moi. Mm-hmm. Puis je voyais que cette personne-là avait beaucoup, beaucoup d'anxiété face à ce que moi, je suis ouverte. Il avait peur que j'aille voir d'autres personnes. Puis lui, son
réflexe...
Parce
qu'il était au courant, tu lui avais dit.
Ben oui,
dans ma vie avant, j'étais comme ça. Puis, OK.
Je cachais rien, donc il savait d'emblée.
Ouais, relation amoureuse, généralement, tu parles un peu.
Ben oui,
absolument. Mais c'est des choses aussi en même temps qu'on peut des fois vouloir cacher. T'sais, on se dit, bon, je le dirai pas si jamais
c'est, ça c'est mon problème. Ça. C'est le genre d'affaire que moi, je cache rien.
Ben c'est pas un problème. Tant mieux, mon Dieu, soyons honnêtes, authentiques et transparents. Écoute, Thomas, c'est parfait, ça.
J'ai une mini-question.
Oui.
C'est quoi un bon trip à trois? C'est quoi un mauvais trip à trois?
Ben,
bonne question.
Ouais, c'est une bonne question. Ben, ce qui est drôle, c'est que ça dépend de chaque personne comment ça va se passer.
Vas-y avec toi.
Mais moi, oui, ben, il y a plusieurs fois que ça a mal été, en guillemets. Il y a des trucs qui ont...
C'est les meilleures histoires. Les histoires de cul qui vont mal. Je prends tout. Bon, j'en ai plein.
Si elle en rencontre une, il faut que tu nous racontes une histoire par contre.
Ring fic.
Et j'embarque aussi.
Let's go.
OK, ben, la première fois que... Ben, avec le premier gars que j'ai rencontré, là, que c'était comme mon premier amour, voilà, dans le BDSM, écoute, on a rencontré un couple, ça a super bien été, de prendre un verre avec eux, puis ils nous ont dit, on va vous inviter chez nous, faire un souper, donc cool, ça va se donner, tu sais. Puis on arrive là-bas, là, ça commence à être chaud, on boit du vin, puis là, on fait un vérité conséquence. Personne ne savait vraiment comment introduire le sujet, donc on était dans le vérité conséquence. Et là, on est arrivé au moment de se déshabiller. Moi, mon partenaire et l'autre fille étaient déjà tout nus, là, en train de faire des affaires. Puis moi, l'autre gars avec qui j'étais, il était pas prêt, il était pas vraiment, il était pas là, il était pas down, puis il regardait sa copine, puis il a juste freeze. Puis j'étais genre, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, veux-tu qu'on arrête? Tu sais, j'ai demandé, j'ai arrêté, j'ai posé la question. Puis là, il était comme, ouais. Puis là, ils ont comme eu un moment entre eux à faire des gros cuddles, à revenir entre eux. Je suis comme, OK, avec mon partenaire, bon, quand il va être prêt. T'sais, puis mon partenaire m'a poussé un petit peu, en guillemets, comme, va l'embrasser la fille. T'sais. Puis j'étais comme, non, je peux pas faire ça. Je peux pas rentrer dans leur intimité comme ça. Je les respecte trop, mais je les connais pas vraiment. Puis c'était leur première fois qu'ils vivaient une expérience à plus que deux. Puis c'est la première fois que son chum voyait sa blonde avec un autre gars. Puis c'est ça
mais
qui a
c'est
été problématique.
Sûr que c'est rough. Ben, ouais. Mais est-ce que ça s'est bien terminé ou
ben,
vous êtes partis manger une poutine?
Ouais, non, on s'est rhabillés, puis on est partis, on les a pas revus. Mais ça fait juste prouver que c'est pas toujours comme on va penser. T'sais, nos fantaisies, nos fantasmes et tout ça, même quand on en parle à deux, ça va jamais être comment ça va être dans la réalité.
Ben non, pas en tout.
Puis c'est ça que je trouve intéressant, cette expérience-là.
Juste BDSM, là, peux-tu nous dire, mais là, je t'ai pas oublié, Thomas, ton histoire après, mais juste, ça fait deux, trois fois que tu le dis, là, donc juste nous expliquer un peu ce que c'est.
Oui, ben BDSM, que ça veut dire, c'est B pour bondage. Bondage, qui est comme des techniques de cordage, qu'on va venir goter les gens de manière sensuelle. D pour domination, S, soumission. Mais le S peut être aussi sado, puis M pour masochisme. Enfin, c'est comme un double...
Est-ce que tu es obligé de tout faire ça ou tu peux juste être un B?
Tu peux être un B. Tu peux être un B.
Non, mais la question,
c'est... Tu peux être un B, M, tu peux être, mais ça, c'est moins hot, un BS. Mais ça,
c'est une autre chose, t'as raison. Mais, OK, on n'est pas obligé de tout faire
non,
ça.
Non. Puis
c'est une communauté de comme LGBT+.
Oui, c'est comme on va dire le terme parapluie, disons, là, comme un peu queer. C'est un peu ça, si je peux dire. Puis c'est vraiment une communauté précise. Puis tu peux te dire que t'es kinky. Donc, t'as des kinks. Kinky, c'est tout ce qui n'est pas dans la catégorie de sexe vanille. Vanille, c'est ce qu'on connaît.
Vanille, c'est toi et moi.
Bon, c'est ce qui n'est pas...
Moi, je suis très vanille.
Quand on est kinky, ça peut être autant juste se mettre un bandeau sur les yeux, attacher les poignets de son partenaire. Ça peut être juste ça, puis on peut rentrer dans cet univers-là comme ça.
OK, donc là, vanille, tout le monde, c'est une vie sexuelle dite normale.
Oui,
kinky, c'est quand t'es un peu olé olé. Après ça, unicorn, c'est la personne qui couche avec un couple.
Exact.
Hey, mon lexique...
C'est bon.
Pompé quand même.
Ouais, exact.
OK, Thomas, à ton tour.
J'ai déjà été avec une femme qui, pendant qu'on faisait l'amour, elle disait... Fred. Puis j'ai fait, non, mon nom, c'est Thomas. Puis après qu'on parlait, elle m'a dit, ouais, Fred, c'est le nom de mon frère.
Oh. Mais non, tu niaises, là.
Non, ma main sur le cœur.
Pas vrai.
Ma main droite,
tu crois pas. Ouais.
C'est Game of Thrones. C'est pas pour ça. C'est pas pour rien que dans Game of Thrones, avec l'inceste, il y a autant de gens qui aiment ça.
Ok, c'est vraiment ça.
Elle me donnait le nom de mon frère.
Voilà. Wow. C'est bizarre. Ouais.
Wow. T'as pas un king, je pense que c'était plus comment dire ça, une bulle au cerveau.
Ok.
Un court-circuit.
Ouais. Un court-circuit. Quand tu rencontres quelqu'un BDSM,
oui.
Là, c'est quoi, vous jasez de vos préférences? Ça arrive sur pendant que vous faites l'amour ou tu prépares ça? Il faut que tu apportes tes fouettes. Faut qu'on ait... Non, mais on a eu là à Mère Ordinaire, non, mais des démonstrations de le fouette, le ci, le ça. Oui. C'est vraiment c'est une.
Il y a déjà
une
humoriste qui a dit ça, j'y crois. C'est que moi, je peux pas être BDSM, ben, j'ai pas les moyens.
Ouais, mais c'est vrai que c'est cher.
Je peux pas.
Ah, oui, hein?
Trouver des trucs vegan aussi, c'est cher à maudit.
Oh,
c'est
non. Difficile. Ah, mon je veux pas avoir une dette de carte de crédit parce que j'ai vraiment ça.
C'est beaucoup trop à acheter de fouet.
Mais tu vois, moi, en même temps, c'est rendu un investissement. Mais là, maintenant, j'ai un copain depuis un an. Là, la relation fermée a évolué vers une relation ouverte avec une autre personne. Là. C'est juste pour finir mon wrap-up, mon histoire. Puis, ben, avec cette personne-là, j'ai découvert tout ce qui était jouets sexuels, puis et BDSM et pas BDSM. Puis, quand on rencontre des personnes qui sont dans cet univers-là, moi, personnellement, je veux toujours rencontrer les personnes dans un lieu neutre. Prendre un café, prendre un verre, n'importe quoi, puis on va en parler. Il faut en parler. Il faut que ce soit carte sur table, d'emblée, genre, puis.
Mais est-ce que c'est gênant?
Non,
tu sais, de parler des préférences sexuelles, même si toi et moi,
cochon,
on est en guillemets vanille,
mais
je vais pas nécessairement te dire quelles sont mes préférences. Mais là, vous.
Ben, quand il y a des coups et il y a de se faire attacher, je pense que c'est mieux d'en parler.
Ben, oui.
Je pense que.
Oui, oui,
si moi, j'aime ça, Riley, puis j'aime ça, missionnaire, pas obligé de s'en parler ouvertement. Mais si tu aimes ça, te faire attacher.
Il faut en parler, je pense.
Mais est-ce que vous faites un scénario?
Oui, avec mon partenaire, on va appeler ça des séances. Donc ça, c'est vraiment du one-on-one. Quand on introduit d'autres personnes, ça va être différent. Mais c'est des séances. Fait qu'on sait que dans ce moment-là, dans notre vie, dans cette soirée-là, on met la switch à on pour qu'est-ce qui est d'être dans le BDSM ou notre relation domination-soumission. Parce que...
Est-ce que c'est toujours le même qui domine?
Oui, dans notre couple, oui.
Mais tu te fais dominer ou...
Oui.
OK,
oui.
Toi, tu te fais dominer.
Oui, j'aime ça.
Mais non, mais j'écoute, hein, moi, je pose les questions.
Ben oui,
quand
let's go.
Dis une séance, là, ça ressemble à quoi? Oui. Là? Peux-tu nous raconter un peu comme votre séance sexuelle? C'est quoi un... Ça commence à 18 ans, ça finit à 21. Oui, non, mais tu sais, c'est quoi, là, tu sais?
Mais avant tout, je veux dire qu'on fait une négociation. Avant, tu disais, est-ce que tu arrives là avec tes fouets? Non, on va faire une négociation. Peu importe c'est quoi la relation, que ce soit avec un one night ou que ce soit mon partenaire de vie. Il faut parler comme, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de faire? Parce que chaque journée est différente, notre corps est différent, on vit des trucs différents. Fait on va négocier de ce qu'on veut faire. Puis négociation, c'est pas genre un formulaire, c'est qu'on attache genre 50 Shades of Grey. C'est vraiment pas ça. Ça peut être super sexy négocier.
Moi, on m'a dit que tous les BDSM que je connais m'ont dit que 50 Shades of Grey a rien à voir avec le BDSM. Ça a bien plus rapport avec le pouvoir et l'attrait de l'argent.
C'est même pas consensuel.
Et comme bien les filles m'ont dit.
C'est louche, elle voulait même pas.
Voilà. Et bien les filles m'ont dit, ils disent que c'est BDSM, mais il n'y a rien là-dedans. Ils ne crachent jamais dans la bouche. Il n'y a pas de claque, c'est pas ça.
Ça passe assez
loin. Ah ouais, let's go.
Mais à la base, il n'y a pas de consentement non plus. La fille fait ça pour le gars. C'est vraiment peu importe jusqu'où ça va. Il n'y a pas de discussion à la base. Bref. Fait que notre séance, là, pour revenir à ça, comment ça fonctionne, c'est qu'on va avoir un rituel. Puis ça, on s'en est parlé avant, puis dans un contexte pas sexu. Donc, ce qu'on va faire comme rituel, c'est qu'on va... je vais passer un collier, un choker, qui est comme la preuve que je suis sa soumise. Et je vais me mettre à genoux, puis je vais lui donner, je vais dire un petit speech cute sur le moment. Genre, « Ah, tu es mon amoureux, mon dominant. » Puis là, c'est vraiment très, très dans le moment, là.
Là, vous tamisez les lumières. Tu sais, tu fais pas ça à côté de la bay window à midi. Là. Non, mais tu sais.
Il y en a qui pourraient, mais.
Je connais
quelques.
Petite anecdote.
Oui.
Dans Griffintown, il y avait un couple qui, à tous les matins, baisait dans la fenêtre les gars de construction regardaient ça. Et c'était un rendez-vous. Et ce que j'adore là-dedans, c'est que les gars arrivaient à l'heure, Chris. Le gars, il dit, on a un show à 7h50 avec le couple de bourgeois. On ne veut pas manquer ça, là.
Ça.
Mais là, c'est quoi, vous prenez un verre de... Tu sais, moi, je ne me vois pas faire ça à jeun. Puis je ne suis pas en train de dire buvez pour avoir du bon sexe.
Non,
c'est pas ça.
Par contre, tu dis un peu... Puis le sexe chaud, c'est extraordinaire.
Ben, ça dépend jusqu'à à quel point t'es chaud.
Oui.
Mais tu sais, est-ce que vous prenez un verre de vin? Est-ce qu'il y a une musique que vous mettez? Comment ça...
Ben, avec mon partenaire, non, pas nécessairement. Okay. C'est surtout juste le soir. Puis on le sait dans la journée que ça s'en vient. Fait qu'on sait que c'est dans la journée. Oui, okay. C'est un moment. C'est un événement qu'on va vivre ensemble. Mais quand on voit d'autres personnes, que ce soit dans le BDSM ou non, parce que quand on voit des couples ou des filles seules, c'est pas nécessairement BDSM. Là, ça peut être très, très relax. Là, on aime plus ça, prendre un verre de vin, faire un souper, vraiment créer un événement plus grand autour de ça. Mais avec mon partenaire, on va juste rentrer dans la séance puis se mettre la switch à on pour ça.
Mais y a là, pas c'est quoi? Ils te fouettent?
Ça dépend toujours.
Ça ressemble à quoi en général?
Ça dépend.
Il faut changer, sinon c'est pas excitant.
Ben oui, il faut changer le menu des fois.
Mais mettons, là, moi, je décide là, de vivre une expérience BDSM. Mm-hmm. Là. Je voulais, quand, mettons, être un peu soft.
Qu'est-ce que je
ferais? Je ne pas que ton chum écoute parce que là, c'est ce qu'il faut faire en fin de semaine.
Qu'est-ce que vous me feriez? Là,
ou qu'est-ce que tu vas faire?
Oui, ou qu'est-ce que je ferais?
Tu peux dominer ton amoureux?
Qu'est-ce que je pourrais me proposer?
Premièrement, on va discuter avec toi. Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Ce serait quoi tes limites? Qu'est-ce que t'aimes comme sensation? Souvent, ce que j'aime proposer aux personnes qui c'est la première fois, c'est genre de la glace. C'est niaiseux, mais des glaçons sur le corps, ça fait juste éveiller des sensations et stimuler des ondes érogènes ou non, puis et bander les yeux. Puis à chaque étape, on va toujours voir si c'est correct avec la personne. Pas genre, hey, t'es-tu correct? Non, mais juste comme faire un petit check, tu sais, juste pour vérifier l'état de la personne. Puis souvent, ça va super bien, puis les gens, ils veulent continuer, puis ils se découvrent à travers ça, puis on aime se montrer aux gens aussi notre univers. Puis...
Donc, ça va être de la glace. Là, si, mettons, je te dis, j'aime bien ça, là, c'est quoi vous faites? Là?
La glace sèche.
La glace sèche, ouais, on step up, là. Ouais.
Mais est-ce que je commence à me faire fouetter? Est-ce que on crache dessus? T'sais, c'est quoi qu'on fait, là?
Cracher, ça dépend. Ça fait partie de l'humiliation.
Ah, mon Dieu, OK.
Ouais, ça
c'est l'humiliation.
Ouais, mais l'humiliation, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on a en tête qui est comme genre, ouais, ton corps, il ressemble. Tu sais, comme insulter quelqu'un, c'est pas tant une insulte que ça peut être se faire cracher au visage, okay. Que ça peut être se faire humilier par rapport à, je sais pas, la taille d'une partie génitale, parce que toi, c'est ce qui te dérange. Il y en a qui aiment ça.
Moi, j'ai déjà dit à une fille qui aimait ce genre de rapport-là, en one night, puis elle m'a dit juste, dis-moi quelque chose, insulte-moi.
Ouais.
Puis j'ai dit que j'ai lu ce qu'elle écrivait, puis c'était pas assez bon pour écrire un roman. Pas assez habillé.
Mais ça, c'est chien.
Mais là, ouais. Je me suis dit, faut que je fasse mal. Je veux pas dire des choses comme t'es nounoun.
Non.
On va y aller dans les choses profondes. Ouais. Et là, j'ai réalisé que c'était pas pour moi.
Ouais, okay. Tu vois, l'humiliation non plus, tu vois, je suis la misère à en parler parce que même moi, je suis pas à l'aise avec ça.
Est-ce qu'il y a un mot? Ouais. On voit ça souvent dans les films. Mm-hmm. Quel est votre mot de cliché, couple? Oui. Là, genre,
un safe word, ouais. Qu'on appelle. Ouais. Nous, on va avec un code de couleur.
Mon Dieu, c'est ouais.
Ben, non, c'est super un simple. Il y a trois couleurs. Là. Okay. C'est comme les lumières sur le bord de la rue.
Oui, si tu trouves un char, blanc, rouge.
Ben oui, c'est ça. J'ai mon permis, là, je peux me faire fouetter. Fait que, non, mais c'est vrai. Là. Ça vient avec la carte.
Ça serait tellement le meilleur slogan pour la communauté BD.
Je peux me faire fouetter.
Oui. Voilà. Simple de même. Donc, couleur vert, tout va bien. Jaune, on prend une petite pause, quelque chose qui va pas, mais on peut continuer. Puis rouge, ben, on arrête la séance. Puis arrêter veut pas dire on arrête à 100%. C'est juste, OK, on arrête ce qu'on fait présentement, on en discute, on se prend un petit verre d'eau, puis on peut continuer.
C'est quoi le plus intense que vous avez fait?
Ça dépend toujours de... Intense, ça dépend pour qui, hein? Ouais. Parce que c'est quoi l'intensité? Moi, par exemple, puis j'aime beaucoup ça, c'est du breath play, donc c'est jouer avec la respiration. Puis il faut vraiment avoir full confiance en la personne pour ça. Au début, ça peut juste mettre la main comme sur la bouche et le nez, mais on aime ça aussi jouer avec du saran wrap. C'est pas très eco-friendly, mais.
Ça, là, ouais. Je suis devenue molle là, pendant une seconde.
Ouais.
Saran wrap dans le visage et
ouais,
tout.
Le visage.
Oui, c'est plus efficace que sur les cuisses. Mettons, là, pour enlever la respiration. Oui,
mais je me disais, au niveau de la respiration, je me disais peut-être qu'elle se fait aussi attacher. Toutes les mains, là, comme ça rien de rappeler le corps. Je sais pas. Je le sais pas.
Ben, hein,
je...
oui,
ben, devant
oui,
nous, on va lui poser la question.
Oui, ça se fait. Puis...
Mais dans le visage. Ça, ouais. Oh mon Dieu.
Mais c'est ça. Puis ce que j'aime de cette pratique-là, c'est que ben, je suis toujours avec mon partenaire, on se regarde dans les yeux. Puis je relaxe tellement ma respiration. T'sais, je prends le temps de respirer. Puis il me laisse de l'air. Là, il ne va pas me laisser 10 minutes. Là. Puis il y a une règle très importante dans le BDSM qui s'applique aussi quand on fait de la corde. Tu attaches quelqu'un, là, tu ne peux plus bouger. C'est que si tu sors de la pièce, il faut que tu puisses retenir ton souffle. Avant de revenir. Faut
c'est
pas
une excellente règle.
Ouais,
dans les règles, là, c'est dans les meilleures de l'histoire de l'humanité.
Pas pire, hein? Parce que si la personne que tu as attachée elle manque de souffle au moment que tu quittes la pièce, puis toi, tu reviens après 10 minutes.
Je dois tellement poser la question.
Ouais.
As-tu, toi, ou as-tu parlé d'autres gens des accidents?
Personnellement, non. À part ce qu'on entend peut-être dans les médias, parce que bon, c'est sensationnel, là, des gens qui sont qui meurent par strangulation ou des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais entendu d'histoire comme ça, mais en même temps, je suis pas à fond dans les communautés, comme j'ai dit. Je suis pas dans les événements. Je rencontre pas tant de personnes de cet univers-là extérieur des
habitations. J'en reviens pas que même moi, je suis allée à l'aura, j'ai pas toi.
Oui, ouais, mais c'est ça. Chacun ses envies, puis je dis pas que je ferais pas. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas.
En tout cas, une belle cage.
Une belle
cage. J'ai fait un reportage à l'orage. Et il y a la comment on appelle ça, le genre de petit garde-robe avec plein de trous là, pour mettre les pénis. Glory hole. Le glory hole. Ça, c'était.
Ah, oui,
ma première fellation, c'est un glory hole, moi.
Pour vrai?
Ma première fellation.
Je m'attendais pas.
Non, c'est ça.
Ma première fellation, c'est dans un glory hole. C'était un ancien club échangiste sur Bélanger ou Bellechasse, je me souviens plus. dans le vieux rôle.
Est-ce que t'as mis ton pénis dans le trou, la personne voyait tes qui?
On voyait. Moi, j'ai vu mon pénis, j'avais aucune idée c'est qui. C'était un homme, okay, parce que j'ai senti de la barbe sur mon gland.
Ok, tu es allé toi-même dans le gland. Okay,
moi, moi, je voulais vraiment, vraiment coucher avec des filles, mais j'étais pas capable.
Fait que donc, j'ai à 18 ans, tu es allé dans un...
club échangiste, c'était grotesque. J'ai convaincu personne. Fait que moi, je me suis tanné. Mais si on me voit pas, ça va être je vais être capable.
Et ma première fellation.
Dans un girl.
Ok. Ouais.
Puis je ne peux jamais retourner dans, mmh, dans ce genre de...
Mais tu sais, il y en a qui vont aux danseuses, il y en a qui vont...
chaque sexualité, c'est mon ça. Dieu. Puis pour terminer, dis-moi, est-ce que ton entourage est au courant? Est-ce que tes amis savent un peu c'est quoi tes pratiques sexuelles? Est-ce que tu en parles ou...
Je commence de plus en plus à en parler, comme la prochaine.
À la radio.
Oui, c'est ça.
Oui, mais à la radio, on ne voit pas ton visage. Mais tu sais, des fois, à nos amis, ça va être plus difficile, des gens qui nous connaissent, de dire, mm-hmm, hey, tu sais pas, mais tu sais, moi, ce soir, ça arène rap, là, tu sais.
Donc, c'est l'intimité, hein. Moi, je connais pas la position sexuelle préférée de tous mes amis.
Non, mais je veux pas.
Mais non, mais moi, j'en connais pas mal. Ah, on en parle quand même. Là, c'est pour ça que je te l'ai demandé.
Mais souvent, je rentre pas dans les détails parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé de savoir tout ce que je fais. Si on pose la question comme là.
Ils sont pas tous comme moi.
J'aime ça. J'aime full ça. Mon but, c'est d'éduquer aussi en même temps. Mm-hmm. Je trouve que c'est
démocratique.
Ouais, c'est full super. Oui. C'est un peu trop tabou. Puis pourtant, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça. Il y a 5% des Canadiens qui sont dans un couple non monogame, entre autres.
5%?
Ouais.
OK. Puis, quand même.
Fait que tu sais, il y a comme manière. Il faut en parler.
Mais voilà. C'est une réalité, n'est-ce pas?
Que, non, c'est ça.
Juste qu'on n'en parle pas au bureau nécessairement, mais ça fait partie.
Puis c'est correct.
Ben nous, on en parle aujourd'hui au bureau. Hey, c'est terminé. Merci beaucoup, Charlie.
C'est un plaisir.
Oui. Là, je l'ai dit. Voilà, Thomas Levac, merci beaucoup. Cube Radio.